Il n'est pas très pratique au potager d'avoir un énorme engin. Ça peut même être parfois handicapant. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un chou gigantesque ou d'une chicorée d'un mètre d'envergure? Non seulement ça fait des trous dans vos rangs sitôt qu'un ou une est récolté, comme une incisive manquante dans la bouche d'un ravissant mannequin, mais arrive ensuite le plus compliqué, les manger. La perspective d'avoir le même légume à tous les repas plusieurs jours, voire semaines d'affilée, n'est pas forcément enchanteresse pour tout le monde. Pour faire découvrir, goûter ou partager au potager, soyons modestes et visons petit.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Au potager, on n'est pas obligé de faire le concours de la plus grosse. Tenez par exemple, en ce moment, c'est la saison des courges. Et avec les courges, il y a un intérêt, vous allez voir, à les préférer petite, comme cette drôle de Jack B. Little. C'est le nom d'une variété qui parade sur le plateau dont on va déguster. Mais nous avons aussi à nos côtés bien d'autres légumes qui sortent des standards, qui revendiquent une différence, qui font prendre vie à la biodiversité et qui racontent aussi de nouvelles couleurs au potager et de nouvelles saveurs dans l'assiette. Poire de terre, courge de Siam, au cas du Pérou, ces noms vous disent sans doute plus grand chose. Ce sont pourtant des légumes étonnants qui méritent une place dans nos potagers et ce n'est pas notre pote du potager qui nous dira le contraire. Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
Formateur en maraîchage, vous êtes, on le sait, le monsieur légume dans la bande dont on va déguster. Vous avez publié il y a quelques mois, je le tiens à la main, le potager d'un frimeur. Toi aussi deviens une star grâce aux légumes aux éditions Terre Vivante. On a déjà eu l'occasion de dire le plus grand bien qu'on pense de ce vadémécum qui plonge l'apprenti maraîcher dans le monde des plantes. Alors on va les qualifier d'étonnantes, de fascinantes, de colorées, acrobates et surtout comestibles. C'est aussi ce qui nous intéresse. On va se balader dans votre cabinet de curiosité végétale que vous avez carrément déménagé dans le studio de France Inter, Xavier.
Ah oui, l'hiver, c'est une belle saison pour
c'est
les légumes.
Coloré.
En fait,
hein.
Ah ouais. On a toutes les couleurs, toutes les textures, toutes les saveurs. Ça nous change un peu de la facilité, entre guillemets, du fruit en été, qui est très plaisant, très facile. Mais en hiver, non, on s'amuse pour de vrai.
Ah bah là, il y a du fuchsia, de l'orange mécanique. Il y en a vraiment de toutes les couleurs, en effet. Et nous avons confié quelques-uns de vos beau et drôle de légumes à une super chef. C'est Louise Jacob, bonjour.
Bonjour à tous.
Landaise, vous êtes au fourneau de Potioca, un bistrot gastronomique tourné vers le sud-ouest, hein, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, Potioca, la définition?
Le Potioc, c'est une race de petits chevaux basques, voilà, et c'est surtout la mascotte de l'Aviron Bayonnais, club de rugby qui nous tient à cœur, que ce soit à Bayonne, à la Table de Sébastien ou à Paris.
Mais alors, quand je dis Potioca, j'ai pas la bonne prononciation?
Si, Potioca.
Ah bon? On peut dire Potioc alors aussi.
Voilà, bah, Potioc c'est le cheval.
C'est le Potioc.
C'est ça.
D'accord. Là, au bout, c'est l'article.
Voilà. Vous l'aurez reconnu, il est aussi spécialiste des Potiocas, notre ami Arnaud Daguin. Alors, ce qui ne fait pas de doute par contre, c'est que Potioca, ça se situe bien rue de l'Exposition dans le 7e arrondissement de Paris. Vous y faites une excellente cuisine, assez végétale. Et on va voir comment vous avez réussi à dompter des betteraves de couleur, la poire de terre ou encore cette fameuse courge Jack B. Little à travers des recettes que vous allez nous faire goûter. Dans les fauteuils des chroniqueurs, vous l'avez reconnu, il y a Arnaud Daguin. Salut.
Et bonjour à toutes
Comment
et à tous.
Ça au va menu.
Très bien. Au menu, un coup de cymbale aujourd'hui.
Un coup de cymbale. Moi, je sais, il y a une petite surprise. Et puis, c'est le retour d'une petite nouvelle dans la bande dont on va déguster. On est ravis de la retrouver. Zazie Tavitian, bonjour.
Bonjour, ravi d'être là.
Ça va?
Ça va bien.
Alors, vous nous emmenez là aussi, on voyage un peu avec vous, Zazie.
Oui, je suis partie à Marseille et je vais vous amener visiter des jardins bien particuliers.
Splendide. Si vous voulez réagir en direct dans l'émission de Solutions, un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou un clic sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Retrouvez nos nombreuses recettes, ou plutôt celles de Louise Jacob, nos infos pratiques, le podcast de notre émission et de toutes nos chroniques. Ça, c'est sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster. Avec François-Régis Gaudry.
Alors bonjour, bienvenue chez Les Fichetons. On est dans le Vieux-Lille, du coup, au 33 rue des Bouchers, donc en plein cœur du Vieux-Lille. On a ouvert depuis le 22 octobre, donc une semaine avant le reconfinement. Donc bon, c'était, le timing n'était pas super adapté, mais on marche plutôt pas mal pour un lancement. Donc on est vraiment content des chiffres et du soutien des Lillois en général. Donc c'est plutôt positif pour nous, en tout cas sur ce lancement. Ouais.
Cette semaine, j'étais en vadrouille à Lille et je ne suis pas revenu bredouille. J'en profite d'ailleurs pour saluer chaleureusement tous les Lillois et les Nordistes qui nous écoutent et je leur dis qu'ils ont de la chance d'avoir, pas très loin de chez eux, cette super adresse inaugurée à l'automne dernier dans le Vieux-Lille, les Fichetons. Alors dans Fichetons, il y a Fiche, il y a aussi Ton, même s'il n'est pas vraiment question de thon, là pour le coup, on a affaire à un fish and chips, et celui a pour slogan, attention, comme un poisson dans l'île. C'est plutôt malin, et à l'origine de ce snack, deux associés, deux Rémy, Rémy Vasseur, Rémy Descamps, vêtus de t-shirts à marinière, et bien ces deux copains de 27 et 28 ans m'accueillent dans une charmante cantine carrelée de blanc avec un mur de briques rouges pour la touche nord. Et pour le fish and chips, oubliez l'éponge à gras que l'on retrouve dans de nombreux snacks outre-Manche, vous savez où ça graillonne un peu. Nos deux compères revisitent ce totem anglais, le fish and chips, avec style et conviction. Je m'y suis rendu avec notre amie Marie-Laure Fréchet, journaliste gastronomique à Lille et fondatrice du festival Mange Lille. Je me faufile en cuisine pour la préparation du fish and chips et puis on le déguste juste après avec Marie-Laure.
La petite particularité de notre préparation sur le ficheton, donc sur notre fish and chips, c'est qu'on fait de la panure en fait gluten free, qui est donc au cornflakes, et on a remplacé la farine de blé classique par de la farine de riz.
C'est quel poisson ?
On travaille en fait en ce moment avec de l'aigle fin. On essaye de respecter au maximum les périodes, les saisons de pêche, les périodes de reproduction, etc. Alors les frites, c'est pareil, on a aussi une petite particularité là-dessus. On s'approvisionne dans une ferme qui est à 20 minutes d'ici. On va chercher nos pommes de terre donc chez Romain.
Deux bains de cuisson ?
Un seul bain de cuisson en finition du coup, puisqu'elles sont pré-cuites de vapeur. Dernière cuisson, 180 degrés, en huile de tournesol. Encore une fois aussi pour respecter, on va dire, les attentes de chacun sur les allergènes aux arachides ou quoi que ce soit.
C'est beau, hein ?
Oui, c'est très appétissant, c'est bien doré. Alors on a des frites qui sont croustifondantes en fait. Elles sont croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. C'est pas l'habituelle frite du Nord, mais elle est bonne. Bien salée, juste ce qu'il faut. Reste à goûter le poisson. Ça croustille aussi. C'est intéressant, c'est pas complètement pané, c'est pas le fish and chips traditionnel, c'est une nouvelle interprétation. Ce qui est un peu déroutant, c'est qu'il y a des épices un peu cajun, enfin un peu exotiques. C'est très assaisonné en fait. Voilà, c'est pas beaucoup de goût. Mais le poisson est bien cuit. Alors la sauce tartare, là aussi elle est très bien condimentée, légèrement piquante, très bien, très vinaigrée. Elle a beaucoup de peps.
Validée cette jeune adresse ?
Oui, c'est très sympa. J'y reviendrai avec plaisir.
Voilà, le fish and chips des fichetons. Alors, plutôt poisson pané que gros beignet boursouflé à l'anglaise. Vous avez un truc à soumettre à nos auditeurs pour faire également un bon poisson pané croustillant, Arnaud ?
Oui, c'est quand on est copain avec un brasseur, un micro-brasseur, là, comme il y en a partout aujourd'hui qui font de la bière, souvent les drèches de bière, quand on les sèche bien et qu'on les remouline un peu, ça fait une panure extraordinaire.
De toute façon, que les drèches de bière, c'est les résidus en fait du brasseur.
C'est ça, oui, tout à fait. C'est l'orge en fait, et le peu de houblon. Quoi.
Ça ressemble un peu à des cornflakes, quoi.
On commence à en faire du biscuit, on commence à faire beaucoup de choses là. En ce moment.
Très bonne idée.
Je vous garantis que la panure du fish and chips avec ça, c'est bon.
Et ben la panure du fish and chips des fichetons, je peux vous assurer que c'était super avec les cornflakes et la farine de riz. 33 rue des Bouchers au cœur du Vieux-Lille. On est juste en face de Blompot, le premier estaminet de Florent Laden. Et ces fichetons sont ouverts du mardi au samedi au déjeuner et au dîner uniquement à emporter, évidemment en raison des mesures sanitaires. Et les prix, c'est 11 euros le fish and chips avec une très belle dose de fish, une généreuse portion de chips. Voilà, on est dans les Hauts-de-France. On y reste un court instant avec vous, cher Xavier, puisque vous participez à un très beau projet en qualité de, je sais pas s'il faut dire, consultant en maraîchage, ou qui va être inauguré le 22 mars à Mers-les-Bains, dans la baie de Somme.
Oui, voilà, ça s'appelle les Maisons de Vincent, donc c'est conduit par Hélène Médig, qui est réalisatrice aussi, par ailleurs, et comédienne, et puis qui est très sensibilisée à l'autisme, et qui a eu cette volonté de faire des maisons d'accueil pour adultes autistes cette fois, puisqu'on a un petit peu un drame de l'accueil des adultes. Alors, c'est des maisons, ça me rappelle vraiment sa volonté de ce qui était un peu un axiome du bio il y a très longtemps, c'était prendre soin de la terre pour prendre soin des hommes. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Donc voilà, c'est des maisons d'accueil où on est là aussi pour prendre soin de la terre, le meilleur moyen de s'occuper dignement des hommes et des femmes. C'est une association qui est parrainée par Nicolas Hulot et Isabelle Carré, qu'on remercie beaucoup. Et puis, une association qui est SEM, puisque là, la première maison ouvre là à Mers-les-Bains, mais il y en a une seconde à laquelle je participe plus, à l'Esperon, qui va aussi ouvrir ses portes.
Là, on est où, dans le Bordelais ?
On est dans les Landes.
Dans les Landes.
Carrément dans les Landes, sur des terres sableuses. passe. Mais
vous y étiez, on s'est passé un petit coup de fil en fin de semaine, voilà. Vous étiez en train d'y travailler.
Voilà, donc les Maisons de Vincent, c'est un très très joli projet.
Très bien.
Vous avez toutes les infos sur Internet.
Absolument, on a mis toutes les infos sur franceinter.fr à la page, on va déguster les Maisons de Vincent, des lieux de vie et d'accueil adaptés pour adultes autistes, adossés d'ailleurs à l'agroécologie. Très belle initiative, merci beaucoup Xavier, Mathias, Laurent Thomas et Louis Audebert sont en direct derrière la console. Nadia Chougui a préparé l'émission, dans un instant on file au potager pour déterrer et cuisiner avec nos invités des légumes étonnants. Mais pour l'heure, Djoubaka nous sert dans les oreilles, Love is Back de Céleste, j'aime beaucoup, bon appétit sur France Inter.
Is back. Love is back. Love is back. Glass full, so I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is back. Love is back.
Qu'il y aura des frites à midi. Voilà comment la plupart d'entre nous découvrons l'immense attachement et la reconnaissance éternelle qui nous lie aux légumes. Un beau jour, dans une banale cantine, nous prenons conscience que les frites sont paradoxalement faites avec des légumes, les pommes de terre. C'est un bon début, ce fut le mien. Voici comment votre livre, dont je rappelle le titre, Xavier Mathias, Le potager d'un frimeur. Toi aussi deviens une star grâce aux légumes, aux éditions Terre Vivante. Alors, on parlait de frites à l'instant, avec le fish and chips de Lille, ça a été votre entrée en matière pour découvrir les légumes, si j'ai bien compris. Bon, sauf que vous êtes allé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans cette quête de légumes, jusqu'à vous intéresser à leur immense diversité de tailles, de formes, de couleurs, de saveurs. Vous nous racontez dans ce super chouette livre le destin du haricot kilomètre, de la cerise de terre, de la chaillotte, de l'oseille épinard, de la corne de chèvre et j'en passe. C'est ça qui vous émeut en fait.
Oui, en fait, on s'aperçoit très vite, même si on prend tout ce qui porte le nom de terre, pomme de terre, mais si on cherche un peu, il y a la cerise de terre, il y a la poire de terre, il y a l'amande de terre, et on s'aperçoit que c'est un monde qui s'ouvre à nous.
Et
à
chaque fois, pourtant, c'est un monde souterrain.
Voilà. Et mais à chaque fois qu'on s'intéresse à un légume, on se rend compte qu'il y a un monde derrière qui s'ouvre. Alors les courges, on n'en parle même pas, mais ça pourrait être les betteraves. On s'aperçoit qu'il y a une déclinaison en couleur qui est absolument incroyable, en forme aussi. Donc c'est ça qui est assez génial. Et ce que je voulais aussi ramener avec ce livre, c'est que On a tendance à se prendre très au sérieux, hein, en bio, sur les légumes, etc. Et rappeler quand même, nous, le principe de base, c'est jardiner, c'est pas grave. Voilà, donc à un moment, c'est apprendre à se faire plaisir, à se refaire plaisir avec tout ça, et à savourer l'incroyable diversité qu'on a à portée de main.
Alors, le potager d'un frimeur, il faut évidemment envisager ce titre au second degré, sachant que c'est d'abord un clin d'œil à un livre qui vous a accompagné pendant toute votre carrière, et dont vous nous rappelez le destin.
Voilà, donc c'est le livre de référence qu'on est nombreux à utiliser, c'est Le potager d'un curieux de Désiré Bois et Auguste Payeux, donc publié dans les années 1880 pour la première fois, toujours réédité depuis, et qui nous ramène toujours à beaucoup d'humilité aussi. C'est-à-dire que quand on croit avoir découvert un truc, il suffit juste de chercher ce que eux ont écrit à ce sujet pour s'apercevoir qu'en fait, il nous en reste beaucoup à apprendre. Donc ça fait toujours du bien, ça nous ramène un peu plus de modestie, ça fait pas de mal, et c'est une façon de leur rendre hommage. On parle beaucoup de biodiversité, etc. On s'aperçoit que la biodiversité maintenant, c'est de découper une espèce en 1000 variétés, voire OGM ou F1. Hein, mais eux avaient une vraie idée, une vraie vision sur la biodiversité, c'est-à-dire que c'est des espèces qu'on va chercher, on fait preuve d'humilité, et on va aller chercher là où elles sont, là où on ne les connaît pas. Par exemple, dans les Andes, etc., etc. Donc c'est aussi faire preuve d'humilité et d'apprendre d'autres.
Absolument. Alors ces légumes, on a bien compris avec vous que la gastronomie, cher Xavier, commence avant même l'assiette commence au potager, peut-être bien avec cette gastronomie de l'œil, je disais, des formes, des couleurs vraiment très différentes, et cette capacité d'émerveillement qui fait presque de vous et de tous ceux qui sont attachés justement aux valeurs du potager, ben un enfant au pied du sapin, en découvrant tout ce que la nature peut lui donner d'extravagant, d'étonnant.
Ben oui, c'est exactement ça en fait. C'est un enfant au pied du sapin ou un gourmand dans une pâtisserie. Enfin voilà, on n'en finit jamais. Il y a un dicton que j'aime beaucoup, moi. C'est on est jardinier, on meurt apprenti. Et c'est vraiment ça en fait. On s'aperçoit quand on commence à s'intéresser un petit peu plus au sujet de l'infini possible qui s'offre à nous, et chaque année il y a des nouvelles venues, des nouveaux venus, des bienvenus, quoi qu'il en soit, des super surprises, et aussi tout ce qu'on rate, hein, tout ce qu'on n'arrive pas, et c'est marrant de chercher, voilà, ce que Payeux et Bois avait écrit à l'époque. Est-ce que nous on va réussir à faire un petit peu mieux? C'est marrant de s'apercevoir qu'ils étaient extraordinairement précurseurs, que quand ils parlent du canopote géant, ils le décrivent vraiment comme une petite merveille qui mériterait presque de supplanter les épinards. Moi, je cultive plus d'épinards à la maison, c'est trop compliqué sur mon sol, et du canopote géant, il y en a partout. En fait.
Avec votre livre, Xavier Mathès, vous prenez acte du nouveau statut que vient d'acquérir, notamment à la faveur, entre guillemets, avec 36 guillemets, à la faveur du premier confinement, ce nouveau statut social du potager. Tout le monde a envie d'en avoir un, c'est presque devenu un mantra, une quête de sens ou un signe extérieur de richesse, avec ses excès évidemment. Les sociologues parlent déjà de potagisme, c'est-à-dire, ça veut dire quoi aujourd'hui, que on n'est plus, on a raté sa vie, avant on avait raté sa vie quand on n'avait pas de Rolex à 50 ans, maintenant on a raté sa vie quand on n'a pas de potager?
Ouais, je pense que ça signifie peut-être tout simplement qu'on redevient un peu plus raisonnable, et que c'est super d'avoir des plantes d'ornement.
Donc parlons d'une bonne nouvelle.
Voilà, c'est ça, ouais. C'est très joli, les plantes d'ornement. On a besoin du beau pour vivre, mais on a besoin de manger pour vivre aussi. On semble s'en souvenir maintenant. Donc c'est très très bien. Moi j'encourage vraiment chacun à avoir un potager, mais, et des rosiers ou des géraniums aussi, mais un potager quand même.
Ça va même aller plus loin sociétalement. Je pense qu'on est sur une pente où il n'est pas impossible que tous les végétaux urbains deviennent comestibles à un moment donné, et que ça soit quelque chose à disposition de tous.
Mais il y en a déjà, quand j'en vois sur un trottoir, on trouve du pourpier, de l'oxalis, voilà. On les repère, les plantes sauvages comestibles, voilà. En plein Paris ou dans les grandes villes.
Il y en aura de plus en plus.
Et il y a aussi la superbe initiative à Nantes, conduite par Romaric Perruchot, où là, attention, ils ont sorti énormément de légumes dans les parterres ornementaux, plus dans les pépinières où ils ont de la place, c'est sur plusieurs hectares, que là, les services de la ville de Nantes ont produit des légumes.
Cette immense diversité végétale, même en plein cœur de l'hiver, vous nous en avez fait une démonstration hyper colorée en cinémascope, cher Xavier. Non seulement elle se cultive dans un potager, mais elle se cuisine aussi dans l'assiette. Je sais, Louis Jacob, à la tête de Potioca, un bistrot du 7e arrondissement de Paris, que vous êtes particulièrement sensible à cette richesse végétale.
Oui, tout à fait, parce que déjà, le plus important, c'est de diversifier son alimentation et de respecter la saisonnalité. C'est le point le plus important, je pense, à rappeler. Les gens sont un peu perdus quand ils vont faire leurs courses, malheureusement pas toujours au marché. Et on se rend compte que voilà, les gens consomment pas forcément les produits aux bonnes saisons. Et pourtant, l'hiver nous propose un panel de légumes, de couleurs et de textures différentes à cuisiner. C'est incroyable. On sait pas toujours quoi en faire, parce qu'on est un peu perdu, c'est pas très facile, mais voilà, il faut essayer, il faut se lancer, même si ça rate des fois, hein. Nous les premiers, on essaye, hein. On en parlera tout à l'heure avec la poire de terre.
Le mot essai, voilà. C'est un mot qui fait partie de votre vocabulaire de cuisinier en coulisses.
Donc des fois, voilà, ça loupe, mais il faut recommencer, et puis on trouve toujours des solutions et des accords, voilà, avec des épices, des fruits secs et d'autres condiments pour agrémenter tout ça.
Eh bien, vous nous en avez apporté la preuve, très colorée, orangée, avec une première recette de Louise. Alors, on est dans les courges, mais attention, on choisit l'angle paradoxal. Je cite vos mots, Xavier Mathias, des petits formats. Vous écrivez, combien de fois a-t-on assisté à une de ces fêtes obscures où certains jardiniers à grands coups de potions en général bien peu magiques font enfler démesurément l'innocente de leur choix et nous présentent fièrement leur monstre de foire soulevé à grand renfort de palans et d'élévateurs. Les gaveurs prennent ensuite fièrement la pose aux côtés de leurs victimes. Imaginez qu'on fasse la même chose avec un animal d'élevage. Bon, c'est un mauvais exemple. On fait la même chose avec les animaux d'élevage, mais ce n'est pas une raison pour faire pareil avec les courges. Vous avez choisi votre camp en question courge.
Oui, là, il y a quelques exemples, effectivement, où on cherche toujours à avoir le concours de la plus grande.
Voilà, plus grosse.
Oui, la plus grosse, la plus grande tour, etc. Il y a quelques dirigeants qui sont très doués là-dedans. Et en fait, on s'aperçoit que chez les courges, on a des courges portions comme la Jack B. Little, qui est vraiment très très bonne.
Alors vous l'avez en main, ouais. Jack B. Little. On a vraiment l'impression d'une petite citrouille d'Halloween.
Oui, c'est ça, à qui on aurait intimé l'ordre de rester toute petite pour faire une portion. Et une saveur de châtaigne vraiment délicieuse. La peau est très fine, donc on peut vraiment consommer la peau avec. Les rendements, enfin, c'est pas une culture exigeante en plus. On a des rendements assez élevés, on a pas mal de fruits par pied. Donc faisons-nous plaisir avec ce type de courge, puisque on a moins faim que nos grands-parents, qui faisaient des beaucoup plus gros potirons, etc. Tout simplement, hein. C'est aussi une question de rapport de quantité, de poids récolté au mètre carré.
C'était pour faire la soupe, hein, voilà.
Mais il est vrai qu'on se met à la place de celui qui a envie de tâter un peu la diversité potagère sur ses étals. Il fait son marché le dimanche matin, de tomber sur un gros quartier de courges, mieux vaut ses courges portions qui sont finalement transportables dans leur enveloppe naturelle. Cette petite, là, on a affaire à une balle de tennis en fait. La Jack B. Little, c'est une courge américaine.
Voilà, c'est ça. Donc à peu près la taille d'une balle de tennis. Donc pour une personne très très bien, très facile à cuire. Louise nous en parlera mieux. Très très facile à préparer.
Et on en trouve de plus en plus.
Voilà, et on en a une autre. On a celle-là a beaucoup de saveur. Mais on a la courge pomme d'or, saveur beaucoup plus neutre, mais même dimension à peu près, avec une saveur moins marquée, mais qui permet de faire des farcis, etc., qui, eux, sont vraiment délicieux. Là, c'est la texture qu'on va chercher, alors que là, on va chercher à garder vraiment la saveur, parce qu'elle est très particulière.
D'où vient ce drôle de nom, nous demandent des auditeurs ?
Alors, Jack B. Little, c'est en référence à Jack aux lanternes.
Ah ben voilà.
Cette citrouille d'Halloween très, très
évidée.
Haute, évidée, voilà. Donc là, ce serait comme une mini citrouille à qui on a intimé l'ordre. Voilà, tu restes petite, tu restes
Jack
petite.
Jack B. Little, c'est un ordre.
Voilà,
reste petite.
C'est ça, voilà.
Est-ce que petite courge veut dire plus de concentration de saveur dans sa chair?
Alors, oui, pendant la cuisson, oui, ça se concentre forcément. C'est le rôtissage amène plus de saveur.
D'accord. Et le fait qu'elle soit rôtie entière, vous voulez dire,
oui,
Louise ?
Bien sûr.
Alors justement, Xavier, vous aviez une chose à ajouter ?
C'est par empirisme, j'aurais tendance à dire que j'aurais plutôt confiance dans les petites courges.
Oui.
On en a quelques très grosses qui sont très bonnes, hein, Musquet de Provence, etc. Mais c'est vrai que moi, ma confiance va assez facilement à ces petits calibres.
Génial. Là, on n'a pas tout à fait une courge B. Little, mais un petit marron portion, vraiment petit, qui fait... Ah, il est entre une balle de tennis et un ballon de handball, en termes de poids ou de diamètre. Qu'est-ce que vous en avez fait avec ? C'est délicieux. Est-ce qu'on aime autour du plateau ?
Oui, on aime autour du plateau, et on le dit.
On la rôtit entier, farcie de fromage de chèvre, fruits secs. Donc on a des abricots, des raisins, des pruneaux d'Agen, voilà, et des cacahuètes des Landes, voilà, avec de l'huile de cacahuète. Et on a rôti le tout entier pour concentrer bien les saveurs des fruits secs et ce petit goût de châtaigne, de noix qui ressort bien le goût naturel de la courge. Qui ressort
peu,
naturellement.
Un petit peu laqué en fin de cuisson.
Oui, bien laqué avec un peu de beurre, toujours c'est meilleur.
Vous allez un peu vite, Louise. Quand vous dites de rôtir entier, c'est-à-dire vous avez d'abord farci le légume avant de le rôtir.
On a déjà un petit peu pré-cuit, donc là, parce que c'est pour, on va dire, pour deux ou trois personnes, on l'a plongé dans l'eau bouillante pendant 5-6 minutes, dans de l'eau salée entière. On l'a laissé refroidir et une fois froide, on l'a coupé et vidé.
C'est ça, parce qu'il y a quand même quelques pépins.
Bien sûr, il faut,
revanche,
et les fibres aussi.
On garde la peau extérieure.
Oui, on garde la peau. On garde la peau, elles sont tout, que ce soit pour les butternuts, potimarrons ou toutes les petites courges, elles se mangent très facilement. Donc il faut les garder, c'est plein de vitamines.
Il y a le dilemme de la courge que vous connaissez tous sans doute, c'est que la chair qui est entre les graines, c'est sans doute la plus goûteuse
c'est
de
vrai,
tout le,
particulièrement
de tout le
sucré.
Légume. Et donc il faut arriver à un compromis historique entre se péter les dents sur les graines, mais garder cette chair-là qui est magnifique.
Qui est un peu en général filandreuse.
Oui, c'est ça, qui fait pas trop envie quand on la regarde, alors qu'est-ce que c'est bon.
C'est vrai, ça concentre beaucoup les sucres du légume. Ça prend combien de temps le rôtissage d'une courge comme ça de ce diamètre?
Une petite courge portion, une dizaine de minutes au four, une fois qu'elle est farcie, ça va assez vite.
Pas plus?
Non, 10-15 minutes maximum.
Donc d'abord à la vapeur?
D'abord, oui, ou dans une casserole avec de l'eau, on la plonge dedans.
Et là, c'est combien de temps?
5 minutes.
La première cuisson?
Ouais.
Ah oui, seulement, parce
non,
que là,
ça cuit assez vite.
On obtient une texture très fondante.
Très fondante, et puis on l'arrose en fin de cuisson avec un petit peu de beurre ou de l'huile pour ceux qui ne consomment pas de
beurre. Très belle réussite. Je ne résiste pas. Allez, on fait comme ça, on est vraiment dans un inventaire à la Prévert, on va picorer sans tenir compte des familles botaniques, mais là, il y a une espèce de drôle de bouquet, mais c'est un peu un bouquet piégeux que vous m'avez tendu, cher Xavier, parce que Il y a quoi dans ce bouquet? C'est étonnant. Il y a plein d'herbes aromatiques. Ça pousse en ce moment dans votre jardin.
Ouais.
Et il y en a une qui m'a carrément vrillé les narines. Vous allez m'expliquer pourquoi?
Ouais, elle est pas au sommet de sa forme. Elle sera au sommet de sa forme au printemps. C'est celle qu'on appelle la plante fromage. Effectivement, peut dire à rien. La guninosa, et qui est une plante vietnamienne. On peut dire, oui, là, vous avez dit tout à l'heure, et c'est assez juste, quels sont les pieds. On peut aussi dire ça.
Attendez, vous avez mieux que ça. Dans votre bouquin, page 86, s'il vous plaît. Voici comment vous décrivez l'odeur, parce qu'il ne faut pas parler de parfum. L'odeur de la plante fromage que vous qualifiez quand même d'horreur potagère. En fait, elle pue le vieux camembert livré à lui-même, abandonné en plein soleil depuis de nombreuses semaines sur la plage arrière d'une voiture.
Il y a de
vous
ça.
Auriez pu ajouter à Marseille l'été par 40 degrés. Oui, c'est ça.
Oui, c'est un petit peu ça. Et ce qui est tout à fait étonnant, par contre, c'est que quand on la cuit, elle prend une saveur verte, de vert très agréable. L'odeur disparaît complètement. Donc, elle n'est pas qu'une blague ou qu'un piège pour les visiteurs du jardin.
Il y a également des sauges, hein?
Oui.
Étonnant de sauge. Alors là, pour le coup, on est vraiment flatteur.
Oui. On connaît tous la sauge officinale, qui est vraiment une petite merveille et qui est à employer sans modération. Mais il y a aussi des sauges un petit peu plus étonnantes, sauge cassis, sauge ananas. Donc la sauge cassis est étonnante. Elle sent le bonbon au cassis, sauge ananas, fleur rouge. Là,
elles sont même, c'est presque chimique en fait. C'est ça qui est étonnant.
C'est ça, c'est très très curieux. Dans cet univers des sauges, alors moi, je sais pas. Explorer cet univers-là, parce que c'est comme à chaque fois, quoi. Je pourrais y consacrer presque mon temps.
Mais on va l'explorer avec vous dans un instant. On va faire une émission sauge très bientôt avec vous, c'est dit, famille des Salvia, cher Xavier. Sauge ananas, sauge cassis, c'est très surprenant au potager quand on froisse les feuilles entre ses doigts. En revanche, difficile de fixer leur parfum en cuisine.
Oui, en cuisson,
Louis
ça a
Jacob.
Du mal à tenir. Effectivement, c'est plutôt cru que cuit.
C'est très volatile.
Oui, c'est très volatile. Oui.
C'est
mais
fugace.
Mais le cassis, c'est impressionnant.
Voilà, c'est fugace.
Moi, dans un cocktail, j'ai fait sauge ananas, c'était très bon.
T'as dit?
Oui.
Non.
Ouais, cocktail, il me semble qu'il y avait du rhum et de la sauge. Ça marche.
Et évidemment, vous nous l'avez apporté, Zazie.
Non, désolé.
Il y a une sauge cacao, il me semble. Il y a une sauge
oui,
un peu
c'est
chocolat.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est incroyable.
Je me souviens
ça, c'est,
de ça.
Les sauges, on avait fait les menthes, mais c'est pareil. Les menthes, on peut les décliner, c'est absolument invraisemblable. Mais encore une fois, c'est ça qui est merveilleux avec nos histoires de potager, quoi. C'est que on peut être à l'infini sur quasiment chaque espèce.
Et oui, votre lopin de terre est un espace de liberté formidable. Rappelons que vous êtes à Chédigny, hein,
c'est
en Indre-et-Loire. Cher Xavier, Mathias, on reste avec vous en attendant, mais on fait une pause avec Arnaud Daguin qui nous emmène, oulala, au cirque.
France Inter. On déguster.
Mesdames, messieurs, séquestrés, masqués, testés, retestés, résignés, privés de théâtre, de bistrot, de ciné, mesdames et messieurs, que le spectacle commence. Bienvenue au cirque plein d'air. Sous le plus grand chapiteau du monde, le ciel, au son du grand orchestre des oiseaux, applaudissez le grand spectacle du vivant. Entrez dans l'univers magique de la biodiversité. Au-dessus de vos têtes, sur leur trapèze fleurie, los pollinisatores, abeilles, papillons, bourdons, voltigerons de fleur en fleur pour distribuer la vie. Sur la piste centrale, Rico Lombrico, le costaud ver de terre, fertilisera les sols en remuant sous vos yeux ahuris 30 fois son poids de terre. J'ai bien dit 30 fois, mesdames, messieurs. Au cirque plein d'air, vous allez voir un numéro exceptionnel. Sous vos prunelles incrédules, mademoiselle Laforêt, l'immense magicienne, transformera le carbone en oxygène. Et sous vos regards ébahis, elle appellera la pluie. Oui, mademoiselle Laforêt appellera la pluie avec ses branches, mais surtout, elle saura la capturer. Vous verrez comme elle retient l'eau dans les sols avec ses racines musclées. Puis, vous applaudirez monsieur l'humus et sa microflore. Ces champignons savants iront chercher les minéraux au plus profond de la roche mère et les apporteront docilement aux pieds des végétaux. Et maintenant, le clou du spectacle, mesdames et messieurs, le grand Mathias et ses légumes sauvages. Il vous fera frémir avec ses énormes courges. Vous frissonnerez devant ses blettes fauves. Ses oignons vous feront pleurer d'effroi. Vous verrez avec quelle témérité il dresse son poireau. Acclamez le grand Mathias! Et les cuillères? Les cuillères? Eh bien, vos cuillères, mesdames et messieurs, vous serez bien heureux de les plonger dans la bonne gamelle du vivant. Car oui, quand vous les mangez, ces légumes, ces fruits, ces bestioles, tout droit issus du talent de nos artistes, c'est le grand cirque du vivant qui vient s'ajouter à votre petit cirque à vous. Sous l'intime chapiteau de votre corps, la santé bat son plein. Dans chaque recoin de vos entrailles, la fourmillante ménagerie du microbiote accomplit son vital numéro. Ovationnez la flore intestinale qui vous protège des virus. Virus. Et enfin, mesdames et messieurs, petites filles et petits garçons, dites bravo à votre cœur qui rythme la parade et qu'il joue longtemps la belle partition de la vie.
Bravo! Bravo Daguin, vous faites très bien, monsieur Loyal. On s'est bien amusé.
J'ai vu la piste aux étoiles, moi, quand j'étais petit.
On s'est bien amusé au cirque du vivant. Petite question d'auditeur, Zazie, au sujet notamment de, des semences. C'est vrai que lorsqu'on découvre tous ces légumes différents, parfois on se demande où est-ce qu'on peut les trouver pour les planter dans son potager.
Voilà, c'est ce que nous demande Frédéric, si Xavier Mathias peut lui indiquer où commander ses semences ou ses plants.
Alors ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est qu'on a un discours assez catastrophiste sur « oui, il n'y a plus de graines, il n'y a plus de semences potagères, 75% a disparu ». Bon, pourquoi pas 75, 74, 76, moi c'est le 100% qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'était le 100 quand on dit que ça a disparu? Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a énormément de semenciers en bio, Biogerme fait ses 40 ans cette année par exemple, qui sont absolument géniaux. On m'a fait une petite vidéo avec mon complice Guilin, qu'on met sur notre Facebook ou chaîne YouTube en pagaille veux-tu.
Alors on va mettre le lien sur la page voilà. On va déguster de franceinter.fr.
Et où on trouve justement tous les nommés, tous ces semenciers incroyables, Biogerme, Germinans, Semaille, Graines del País, enfin voilà, il y en a plein. Donc profitons-en et offrons-nous ce spectacle incroyable dont parlait Arnaud.
Très bien, dans un instant, Xavier Mathias et Louis Jacob nous font découvrir d'autres légumes et un en particulier, un drôle de légumes qu'on voit de plus en plus sur les étals, qui répond au nom de poire de terre. Mais ça, c'est juste après Attendre, le nouveau single de Yaël Naïm, On a faim de légumes, sur France Inter.
Attendre que le ciel nous tombe dessus, que les anges ne nous parlent plus, puis un jour on se dit le soleil s'est enfui. Attendre que le ciel nous sombre dessus, qu'on devienne triste et aigri. Puis un jour, on ne vit qu'à travers la nuit là, sur cette terre. invisible, le silence ne nous parle plus. Puis un jour, on se dit qu'on n'a pas vraiment vécu. Et le temps qui nous reste n'attend pas. Et tant que je respire, je reste là. Alors viens.
Ça te dirait ce soir un petit plat de yacon ? Pas de réponse. Dans le potager d'un frimeur, les mots aussi ont leur importance. Qui aurait envie de manger des yacons le soir après avoir eu le sentiment d'en croiser toute la journée ? Je vous refais donc exactement la même à une petite nuance près. Ça te dirait ce soir un petit plat de poire de terre ?
Quelle bonne idée, mon chéri !
Il fallait y penser à ce nom, poire de terre. Il est vrai que ce tubercule remarquablement croquant, qui le reste après des heures de cuisson, a une chair légèrement granuleuse qui rappelle celle de certaines poires. Il est vrai aussi que la partie consommée, comme celle des pommes de terre, se développe de façon souterraine. Bravo, ce nom a été bien trouvé.
Vous avez sans doute reconnu la voix du grand Hervé Pochon qui a œuvré à ce micro pendant des années sur France Inter et qui jouait là, rien que pour nous, la scénette que vous avez écrite dans votre livre Xavier Mathias qu'on peut lire à la page 141 sur ce drôle de légume. C'est vrai que il peut surprendre, attiser la curiosité. De quoi s'agit-il ? D'abord, où est-il ? À quoi il ressemble ?
Alors, c'est la poire de terre, c'est une astéracée. On va dire que c'est pour ceux qui auraient envie de le cultiver, la cultiver, c'est exactement comme un dahlia. Ça se cultive comme un dahlia.
On parle de la fleur.
Voilà, à peu près la même exigence, donc même famille que les dahlias, très proche, très très belle plante, hein, absolument magnifique, et qui va donner ces gros tubercules souterrains qui n'ont pas beaucoup de saveur, hein, mais c'est pas, ne faisons pas de complexe là-dessus. C'est une texture absolument géniale. Par contre,
alors qui lui a donné son nom d'ailleurs.
Voilà, c'est un petit peu granuleux, c'est croquant comme des poires, ça reste croquant hein, encore une fois même après un long temps de cuisson. Donc c'est vraiment un très très joli légume. Puis c'est tellement beau, on veut faire des potagers qui soient aussi assez beaux. Et c'est une très 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 jolie plante en plus du reste. Et puis un avantage aussi pour ceux qui comme moi sont pas très favorables aux produits chimiques de synthèse, c'est une plante qui n'a ni ravageur. C'est une plante qui n'a ni ravageur ni maladie spécifique. Donc voilà,
voilà
vous la
bonne
plantez, vous la récolterez. Ah, puis pour ceux qui n'aiment pas trop les gros semenciers et la mainmise qu'il y a sur la semence, la poire de terre, vous pouvez la multiplier vous-même d'une année sur l'autre. Quand vous en avez une fois, l'année d'après vous en avez trois, celle d'après neuf, et après bah, vous en donnez.
Ça se plante un peu comme une patate douce
Plus facile encore. Plus facile. Les patates douces, elles peuvent être un peu délicates à démarrer.
Parce qu'il y a un faux air de patate douce sur les étals.
Oui.
Cette espèce de tubercule un peu allongé, alors pas tout à fait la même couleur que la patate douce.
Ouais.
Mais la poire de terre a comme un air de famille, même si on n'est pas dans le même univers.
Voilà, c'est vraiment souterrain. C'est pour ça que ça rappelle la patate douce. Mais la patate douce est un peu plus délicate. À démarrer, on va dire. Très très bonne aussi, j'en ai amené une là qui est en train de démarrer tranquillement.
Des auditeurs pointent la forte teneur en inuline de cette fameuse poire de terre. Inuline, ça peut avoir un inconvénient, en même temps ça apporte le goût.
Oui, donc on va parler
le
voilà, et on va parler le plus poliment possible. On va dire que c'est carminatif, l'inuline. Donc voilà.
Ouais, d'accord, ça fait péter.
Voilà, exactement, merci. C'est vous qui l'avez dit du coup. Et donc, comme les topinambours ou les lentilles, et c'est un petit peu la même solution que ça. Alors, c'est quand même moins concentré que le topinambour et les lentilles. Et ce qu'il faut, c'est consommer. Enfin, il faut pas stocker à l'air, en fait, tout simplement.
Pourquoi ? Parce que c'est l'oxydation qui développe l'urine,
qui fait qu'elle est encore plus entre guillemets agressive. Donc, c'est toujours les mêmes solutions. C'est en manger peu, et puis en fonction de notre régime alimentaire aussi, où on a un microbiote qui se fait ou qui se fait pas. Hein,
ah, absolument.
Donc nous, on mange beaucoup de légumes et effectivement, moi, j'ai pas de problème particulier avec la poire de terre.
La poire de terre ou yacon, superbement cuisinée avec Louise Jacob. Alors, je m'apprêtais à demander une réaction à Xavier qui faisait des yeux, mais extatique, qui s'est levé pour servir avec
l'assiette.
Avec... Alors,
qu'est-ce que c'est bon? C'est un ventrèche de porc, j'imagine.
Oui.
Racontez-nous un peu.
Fondante. Mais alors, bon, ce qui m'intéresse dans ce plat, c'est qu'en fait, la ventrèche de porc, elle sert de support à trois versions au moins de la poire de terre. Et c'est ça qui est fantastique. En fait, c'est exactement ce que j'aime, moi, dans l'utilisation de la protéine animale. C'est qu'elle vient faire la cerise sur le gâteau.
C'est ça. Voilà. Parce
et là, on a une purée, on a des tronçons rôtis et on a...
Un cru à la réglisse.
Un cru un peu mariné, voilà. Un peu réglissé. C'est formidable.
La vraie star de l'assiette, Louis Jacob, c'est vraiment la poire de terre.
C'est la poire de terre.
Vous avez joué le jeu de ce tubercule jusqu'au bout.
Oui, je ne connaissais pas spécialement. Donc, voilà, on a essayé. Hein, ça a loupé.
Alors, quelle stratégie?
C'est
incroyable.
Voilà, non, c'est un légume qui est assez riche en eau, donc difficile à cuire et en même temps, c'est vrai que comme le disait Xavier, il se tient particulièrement bien sur le cru. Moi, je l'ai cuisiné pour la mousseline en papillote au four pendant très longtemps. Ça a permis de lâcher la fibre, donc on peut en faire une purée facilement. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on aime vraiment aussi à Potioka, c'est travailler un légume de plusieurs manières différentes, pousser les cuissons ou les crus, sous toutes les formes.
C'est presque pédagogique.
Mais attendez, la poire de terre, là vous êtes en train d'en manger justement, cher Xavier, poire de terre mandolinée, c'est-à-dire vraiment taillée en fines lamelles, peut se consommer cru.
Ça se mange cru.
Vous y êtes pris?
D'ailleurs, dans les Andes, c'est au rayon des fruits, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est un tubercule, un rhizome qui se mange cru ou cuit dans une salade de fruits ou salé.
C'est magnifique.
Mais alors, attendez, cru comme ça, mais vous la marinez, vous faites quelque
chose? Avec un petit peu d'huile d'olive, fleur de sel, et moi j'ai mis de la poudre de réglisse pour amener un petit peu de... C'est un légume qui absorbe beaucoup les parfums,
c'est
les
un
marinades.
Bon
voilà,
bon
donc c'est facile de l'agrémenter.
C'est magnifique
de...
ce plat.
La réglisse sous quelle forme? En poudre?
En poudre. Et si on n'en trouve pas, il y a toujours des petites solutions. Il y a la fameuse marque de bonbons jaune et noir. Voilà, on l'écrase et ça fait de la poudre de réglisse.
Écoutez, c'est un vieux bonbon qui fait partie de notre patrimoine et qui est ensuite naturel. Pourquoi pas?
Voilà, donc on l'écrase
et ça fait
mieux de la poudre de réglisse.
Que ces haricots fluo commençant par un H. La vie est beau. Non, mais très bien, réglisse, vive la réglisse et vive la poire de terre. Preuve qu'on peut faire des choses étonnantes. Vous avez l'air d'être sur les fesses.
Ah bah merci beaucoup de me. Parce que nous, au potager, on va défendre la culture. Mais quand elle est magnifiée, que ça nous donne raison, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, c'est très très bon, vraiment très bon.
Quand on vous avait dit que Louis Jacob avait énormément de talent, profitons d'une une courte promo pour Potioka, parce que vous êtes en difficulté comme tous les restaurateurs en ce moment, mais vous vous en sortez avec des menus à emporter, midi et soir, racontez-nous.
Midi, on est ouvert 7 jours sur 7 à Paris, à Bayonne également, on fait des menus qui changent quotidiennement, donc ça c'est important, c'est du travail, de la recherche, et puis aussi pour faire plaisir à tout le monde. Et on a un menu entrée plat dessert, voilà, qui est renouvelé quotidiennement. Et on a besoin, je pense, tout le monde a besoin en ce moment de retrouver des clients. C'est aussi le lien social, le contact avec les gens, faire travailler ses fournisseurs, c'est très important aussi. Voilà, on est une chaîne. Hein,
alors, vous êtes emporté, mais vous ne livrez pas en revanche.
On vient chercher
son entrée plat dessert midi et soir. À quel prix?
À 25 euros entrée plat dessert, voilà donc.
Pour le niveau que vous avez avec le sourcing de vos produits et le niveau gastronomique, on est dans le bistrot gastronomique, on est vraiment dans une très très belle expérience de table. Merci beaucoup Louis Jacob, dans un instant on va déguster aussi une superbe recette de betterave. Mais pour l'heure, on est au potager, on y reste, mais on y va même en vrai avec Zazie Tavissian.
On va déguster. sur France Inter.
Aujourd'hui, Zazie, vous nous parlez de potager ou plutôt de jardin assez particulier.
Oui, j'aimerais vous parler des jardins ouvriers, qui, comme leur nom l'indique, étaient à leur création des lieux pour jardiner destinés aux ouvriers. On identifie leur apparition à la fin du 19e siècle. C'est une femme, Félicie Hervieux, qui va créer les premiers à Sedan en 1893. L'abbé Lémire, député maire d'Hasbrook, dans le Nord, va ensuite répandre l'idée un peu partout en France. Il écrit, l'abbé Lémire, à ce sujet, que s'ils permettent aux ouvriers d'échapper à leur taudis en profitant d'un air plus respirable, ils les éloignent aussi des cabarets et encouragent des activités familiales au sein des espaces verts.
D'accord, faut pas se dévergonder dans les cabarets où il y a un peu trop d'alcool qui coule.
C'est ça, on n'échappe pas au côté paternaliste de l'abbé. Mais ces jardins, mis en place par les municipalités, permettent surtout aux ouvriers d'avoir des parcelles individuelles pour jardiner et donc pour se nourrir. Ils ont vraiment une fonction vivrière, ces jardins.
À quoi ressemblent alors ces jardins aujourd'hui, Zazie ?
Alors aujourd'hui, ces jardins sont gérés par des collectivités locales ou par des associations. On les a renommés après la Seconde Guerre mondiale jardins familiaux, car ils sont ouverts à de nouvelles catégories socioprofessionnelles. Aujourd'hui, c'est surtout des retraités, mais il y a aussi des employés et toujours à 15% des ouvriers. Ils sont souvent situés dans des zones périphériques des villes ou en banlieue. C'est le cas des jardins ouvriers de Caudère à Marseille, une ancienne usine de 3000 ouvriers dont les jardins ont été créés en 1941. Aujourd'hui, ces jardins appartiennent à la ville de Marseille. Il y a 97 parcelles pour lesquelles les membres doivent cotiser 110 euros par an. Et j'ai rencontré Georges Cosantelli, qui a une parcelle ici depuis 30 ans. Je lui ai d'abord demandé de me décrire le cadre.
Le quartier s'appelle La Pomme. Et là, on est entre l'autoroute, vous entendez, et la voie ferrée. Ça va être bruyant à côté de l'autoroute. Il y en a qui voudraient construire, il y en a qui voudraient faire des bâtiments industriels.
Vous êtes arrivé dans ces jardins comment ?
C'est ça, j'ai jamais jardiné de ma vie. J'étais VRP, donc je conduisais beaucoup, je voyageais beaucoup. Et du jour au lendemain, j'ai plus pu conduire. J'ai des problèmes visuels. Et comme je suis pas du genre à rester au fond du lit, je me suis cherché une activité. Je suis venu m'inscrire. On m'a dit qu'il y avait des listes d'attente. Et au bout de quelques temps, j'ai eu la chance. Il y a eu un décès. On m'a accorder une parcelle. Voilà comment ça a commencé.
Alors, il y a des noms dans les jardins. Là, il y a chez Dédé, jardin 101. Vous avez le jardin numéro combien, Georges ?
9. Et ils sont tous différents. C'est ce qui fait le charme des jardins ouvriers.
Alors, Zazie ?
Voilà. Et je crois que Georges m'a dit qu'il connaissait Xavier Mathias. C'était un pur hasard, mais vous vous connaissez avec Georges Xavier.
C'est un des jardins, un des potagers les plus hallucinants et que je connaisse. Et Georges est quelqu'un d'absolument incroyable. C'est vraiment une personne à rencontrer.
Alors, le jardin de Georges, en effet, il est très impressionnant. Enfin, tous les jardins sont très différents. Sur les 97 jardins qu'il y a, ils sont tous très différents, mais tous très bien entretenus.
On l'a entendu, Zazie, malgré leur emplacement pas toujours très facile d'accès, ces jardins sont aussi, et c'est un drame, soumis à des pressions économiques.
Oui, alors que ces jardins, lors de la création, étaient souvent situés dans des zones qui n'intéressaient pas grand monde, aujourd'hui, ils résistent pas toujours à la pression foncière et à la bétonisation des grandes villes. C'est le cas en ce moment à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, avec les jardins de Vertu. C'est un vrai espace populaire qui est très important pour les habitants de ce quartier et qui doit en partie être démoli pour construire une piscine et un solarium pour les JO 2024. Des actions sont menées par les habitants avec des manifestations et des slogans tels que « Dépotirons, pas du béton ». Ce qui est intéressant, c'est de voir l'attachement des jardiniers à leurs espaces. Loin d'être décoratifs, ces jardins, ils nourrissent réellement des personnes qui les cultivent. Ils les nourrissent aussi humainement. Et c'est le cas de Georges, qui lui a créé sur sa parcelle de 150 mètres carrés tout un système de palissades. C'est ce qu'on disait, c'est hyper impressionnant. Les plantes poussent en hauteur, ça augmente sa rentabilité au maximum. Et tout ça sans mettre aucun produit chimique. Je lui ai demandé à Georges s'il se nourrissait toute l'année grâce à sa parcelle.
Non seulement toute l'année, mais je nourris plusieurs familles. Rien qu'avec la parcelle d'ici. Je ne me souviens pas le goût des légumes des supermarchés. Alors non seulement je cultive en bio, mais je cultive aussi en biodynamie. C'est plus bio que bio.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut manger en ce moment de vos légumes ?
Les choux romanesco, tous les choux en général. Ensuite vous avez les épinards, les blettes. On ne les ramasse plus maintenant, mais on mange encore des courges.
Est-ce que vous frimez avec votre potager ?
Non, je ne suis pas du genre frimeur. Les frimeurs, ils rajoutent des engrais pour que les légumes soient plus beaux. En biodynamie, on n'a pas des légumes qui soient plus beaux. Ils ne sont pas plus beaux, mais ils sont meilleurs.
même fondante comme ça.
C'est bah alors tout le monde n'est pas en bio ou biodynamie dans les jardins. Chacun fait comme il veut. Et comme c'est la saison des blettes, moi je vous ai cuisiné une recette très simple avec laquelle je frime aussi.
Je ne la partage pas. Je suis la seule à la goûter. C'est un régal.
C'est la recette de mon compagnon italien, je dois dire. Et c'est des blettes blanchies simplement, sautées avec du piment, des tomates pelées et de l'ail. C'est voilà, moi je trouve ça très bon et c'est très économique.
Votre compagnon, il doit pas être du nord de l'Italie. Hein.
Non, il est débrouillé.
Il y a de la tomate. Il y a une petite trace de piment. C'est un régal, un ragoût de blettes, comme les Italiens savent en faire. Très très pro évidemment dans la cuisine végétale, bravo. Et c'est bon. Pour en savoir plus, Zazie, donc, la recette, on la retrouve sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et pour en savoir plus sur ces jardins.
Alors pour en savoir plus sur les jardins ouvriers, jardins familiaux, il y a un site, hein, www.jardins-familiaux.so, je vous mets le lien. Et pareil pour les jardins d'Aubervilliers, c'est important d'aller voir ce qu'ils font et de soutenir leur action.
Waouh, bravo. Attendez, elle dépote, hein.
Ah ouais, c'est très bon.
Cette recette de blettes. Oui,
une petite réflexion à Aubervilliers, c'est Jardin des Vertus. Savoir aussi que la plaine des Vertus, c'est quand même la plaine maraîchère historique, qu'on a pas mal de variétés, comme on a un AV des Vertus Marteau, par exemple. Et donc, c'est quand même assez, ça fait un peu mal au cœur de voir que la pression foncière gagne sur ces plaines historiques, quoi, qui étaient les bonnes terres de la région parisienne.
Très bien, merci, c'est dit. Merci pour cette intervention, Xavier. On finit allez, avec un légume et une recette. On pourrait citer énormément d'autres légumes, mais on s'interroge un peu sur des légumes considérés comme un peu banals ou monotones au cœur de l'hiver. Je veux parler de la betterave que l'on réduit évidemment à ce légume flasque qui est un peu couleur lit de vin, ou la carotte qui est toujours orange. Or, vous nous avez apporté à se demander si on est devenu daltonien des betteraves de couleur, des carottes de couleur. Expliquez-nous ce phénomène.
Oui, alors quand on dit que elles ont des saveurs différentes, c'est pas subjectif, hein, c'est objectif, hein, c'est-à-dire qu'elles ont des composés différents, donc qui vont justement influer sur leur couleur. Donc soit ça va être plus riche en bêta-carotène, en anthocyane pour certaines, en lycopène pour d'autres, etc. Donc les couleurs des légumes sont dues à leur composé, ce qui donne non seulement des saveurs différentes, mais des valeurs nutritives aussi différentes. Ce qui est quand même important. Bêta-carotène amène leur qualité, les anthocyanes en amènent d'autres, etc. D'où l'intérêt de manger diversifié de deux manières, des espèces diversifiées et des variétés diversifiées.
Et là encore, Louise Jacob a joué le jeu de la betterave multicolore. Racontez-nous votre plat.
Alors,
Louise.
Betterave souvent en mauvais souvenir de cantine, on ne sait pas trop quoi en faire. Nous, on l'a travaillé avec du maquereau qui est brûlé à la flamme. Mariné Gravlax, c'est une recette que l'on fait avec Sébastien à Paris et à Bayonne, avec plusieurs textures et recettes autour de la betterave, un houmous de betterave, des pickles de mini betterave jaune et rouge, et des betteraves shioga et jaune marinées avec une huile fumante aux agrumes. Donc voilà, on peut travailler la betterave de plein de manières différentes et elle a des couleurs et des parfums.
C'est
aussi, voilà, comme tu disais Mathias, très différents.
On n'a pas la couleur et on n'a pas l'image à la maison, mais il y a du jaune, il y a de la crapaudine. La jaune, elle s'appelle Golden, je sais plus comment.
Burpees Golden.
C'est ça. Il y a la shoja qui est tout à fait étonnante,
oui, tout
aussi,
à fait.
Qui fait des marbrures fuchsia quand on la coupe.
Rose fluo et blanche, oui.
Bravo, franchement, tout à fait étonnant. Alors, un petit avis, Zazie, vous en avez pensé quoi?
Ah bah, je l'ai passé à Xavier pour qu'il comprenne bien, j'ai pas encore goûté, désolé.
Je regarde.
D'accord, non, parce que Xavier, je comptais lui demander une dernière petite histoire sur un drôle de tout petit légume qui ressemble un peu à des larves immondes.
Oui, c'est ça, des larves de cétoine, pour ceux qui font du compost. Et donc ça, c'était un peu le légume emblématique de Pailleux et Bois, il faut leur rendre hommage encore une fois, ce sont les crônes. Et les crônes doivent leur nom au jardin de monsieur Pailleux, qui était à Crônes, justement, là où ils ont été cultivés pour la première fois un petit peu en quantité. C'est eux qui l'introduisent de Chine, d'ailleurs, ce petit tubercule. Alors voilà, si on veut manger diversifié, sans moyen de conservation spécifique, sans congélation, sans rien, ben voilà, les crônes font partie de cette panoplie incroyable qu'on a.
Avec un magnifique goût d'artichaut.
Ouais, c'est bon.
Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission, on n'a pas pu tout évoquer, vous reviendrez peut-être nous parler de l'oca du Pérou, de quantité de beaux légumes que vous nous avez apportés, le potager d'un frimeur, on vous recommande, vous l'avez compris, ce livre, toi aussi deviens une star grâce aux légumes aux éditions Terre Vivante, avec un style, une plume en plus pleine d'humeur, d'humour et d'érudition. Potioka, vous nous en rappelez l'adresse à Paris.
4 rue de l'Exposition à Paris et 21 quai Amiral du Bourdieu à Bayonne.
À Bayonne, parce que c'est aussi une adresse qui a commencé évidemment à Bayonne avec ce menu que l'on peut commander. Au menu dont on va déguster dimanche prochain, la cuisine de Rome. L'Italie commençait à nous démanger. Des reportages et des recettes pour retrouver le goût extraordinaire de la capitale italienne. Une émission avec Alessandra Pierini, Stéphane Solier, Elvira Masson et Éric Morin. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim.